J'aimerais encore profiter, même si beaucoup sont descendus avec les groupes d'enfants, remercier tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la fête, à la manière de redire l'avènement de notre Seigneur il y a déjà près de 2000 ans environ, parce que le dater précisément serait présomptueux, mais merci vraiment à tous ceux qui ont permis de redire ce que notre Seigneur a accompli en se faisant enfant, revenant parmi nous. Et vraiment que ce qui a pu être dit aussi puisse encore continuer de faire son chemin dans le cœur de tous ceux qui peut-être le redécouvraient hier soir. Et puisqu'effectivement nous avons cette couronne de l'Avent qui nous le rappelle par ces trois bougies allumées, nous sommes dans cette période, où nous voulons aussi nous rappeler de ce que le Seigneur a accompli et de ce qu'il a fait à cette période autrefois. Et pour ainsi dire, j'aimerais commencer ce message par... Alors c'est pas Star Wars où vous pouvez voir un message qui défile avec plein de choses, il faut les lire en plus. Mais il y a effectivement là aussi fort fort longtemps, alors au premier siècle de notre ère, le peuple juif, je pense vous le savez pour beaucoup, mais il est bon de le rappeler, sait-on jamais, vivait sous la domination de païens, des Romains. Les autorités locales, pour une partie au moins, s'étaient compromises avec eux. Du fait qu'il se devait de collaborer. Et notamment en commençant par un certain roi Hérode, Hérode le Grand, qui lui de toute façon avait demandé appui à Rome pour justement bâtir ce royaume, parce qu'il n'était pas roi, hein, il n'était pas juif lui-même. Le pays aussi, en raison de ce roi et de sa politique d'ailleurs, croulait sous les dettes, à cause d'impôts lourds qu'il devait remettre à Rome, puisqu'il faisait aussi en partie fonctionner l'État romain. Et puis Hérode lui-même avait décidé de faire beaucoup de grands travaux. D'ailleurs, des choses restent encore aujourd'hui. Mais pourquoi je dis cela ainsi? Ce peuple, à cette époque, vivait des temps d'incertitude, de souffrance. Des temps qui étaient loin d'être simples. Et à cette époque... Peut-être plus encore, mais cela faisait déjà quelque temps, hein, que les choses se dégradaient de plus en plus, ce peuple avait besoin d'une nouvelle espérance. Il y avait certainement aussi un espoir de voir les choses changer, bouger. Et aujourd'hui, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous allons parler, alors non pas uniquement de cette période, même si on va aller y voir d'abord, mais de périodes difficiles. Car je pense... D'une autre manière, nous en avons connu, nous en connaissons peut-être encore aujourd'hui. Mais nous n'allons pas nous contenter que parler de périodes difficiles, car ce n'est pas que ça l'Évangile, ça n'est surtout pas cela. Mais nous allons aussi parler d'espoir qui renaît, en raison de ce que nous allons lire. Alors j'imagine bien entendu que vous avez déjà connu, vous, comme je l'ai dit, des périodes difficiles. Vous sentez peut-être même là, ce matin, au plus bas. Parce que les choses se passent pas très bien, au boulot, peut-être. Parce que, alors là c'est très circonstancié, que rien ne va plus au niveau des transports, et que juste pouvoir aller travailler, ou même ne serait-ce que venir à l'église, ou autre chose, est devenu un peu la croix et la bannière, sans mauvais jeu de mots. Parce que votre situation financière en cette période de fin d'année est peut-être aussi délicate, cela peut arriver. Parce que les choses sont, pourquoi pas, aussi tendues à la maison. Entre vous et vos enfants, entre vous et votre conjoint, ou un peu entre tout le monde, pour X raisons. Parce que tout simplement, l'épreuve que vous traversez vous questionne aussi sur la bonté, sur l'amour de Dieu. Ça n'est pas toujours facile, et on peut venir nous-mêmes, en raison de nos fragilités, à douter. Oui, ce matin, le récit de l'Évangile que nous allons lire ensemble va nous interpeller. Du moins, je l'espère. C'est un récit sur l'espoir qui renaît. Et un texte qui nous rappelle combien notre Dieu est grand car il sauve et délivre. C'est un Dieu qui ne laisse pas son peuple dans son marasme, dans son désert. Alors je vous invite à prendre l'évangile de Luc et on va aller lire. Alors tout à l'heure on a lu les 6 premiers versets d'un chapitre d'Ésaïe. Là on va aller lire les 6 premiers versets de l'évangile de Luc en son chapitre 3. Donc Luc chapitre 3, les versets 1 à 6. Et puis moi-même je vais aller lire dans la traduction du Semeur. Donc je redonne une dernière fois, pour que chacun ait le temps d'aller trouver le texte, Luc chapitre 3, les versets 1 à 6. Et maintenant, écoutons. La 15e année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée comme tétrarque. Son frère Philippe sur l'Iturée et la Traconitide Lysanias sur la Bilène. Anne et Caïphe étaient grands prêtres. Cette année-là, Dieu adressa la parole à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se mit à parcourir toute la région du Jourdain. Il appelait les gens à se faire baptiser en signe d'un profond changement, afin de recevoir le pardon de leurs péchés. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait écrit dans son livre. On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur, faites-lui des sentiers droits. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les voies tortueuses deviendront droites, les chemins rocailleux seront nivelés, et tous les hommes verront le salut de Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Je vais commencer, pour rester dans ce texte, ou y venir très vite après, par une question. Vous avez le droit de répondre. Connaissez-vous la grande évasion? Oui. Alors ceux qui disent oui, je crois savoir à quoi vous pensez. C'est fort probable. Alors, on va voir. Pour certains, parmi nous, alors je ne vais pas dire les plus anciens, parce que ce n'est pas forcément les plus anciens seulement, mais vous allez peut-être alors à ce moment-là me parler d'un certain film. Je remonte à une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, je ne saurais pas donner l'époque exacte, avec un certain acteur connu à l'époque, qui n'est plus là aujourd'hui depuis longtemps, même Steve McQueen. J'essaye de sauter au-dessus de Barbelé avec une vieille moto, bon bref. Eh ben non, le jeu de mots était là, mais ça n'est pas, même si j'aime bien aussi ce film, cette grande évasion-là dont je veux parler ce matin. La grande évasion dont je veux quelque part juste évoquer un instant son existence avec vous est beaucoup plus ancienne que cette histoire d'un film. Celle dont je veux parler, c'est cette extraordinaire évasion que l'on appelle encore, alors, qui a précédé même cela, mais que l'on retrouve aussi dans sa suite et que l'on retrouve dans le récit de Livre de l'Exode. Au tout début de sa fuite d'Égypte, beaucoup s'en rappellent, mais Dieu a miraculeusement permis que le peuple traverse la mer Rouge. Ça, on l'a vu en film, il y en a eu plusieurs même de faits là-dessus. Grand miracle, là. Puis, nous savons surtout que le peuple a erré dans le désert et cela a duré un sacré moment. En raison du cœur dur de ce peuple, qui aurait dû normalement y séjourner qu'un court bref moment. Mais voilà, ils sont tellement entêtés que Dieu leur a demandé de rester 40 années. Jusqu'au jour où ils sont arrivés devant la terre promise. Et juste encore pour faire un bref rappel, Moïse fut bien sûr l'homme qui conduisit ce peuple jusque-là. Il le fit sortir d'Égypte et l'amena jusque devant le Jourdain. Mais, et je pense là, ça n'est pas forcément une surprise, je vous spoil pas la fin, hein, il n'eut pas pour autant le droit d'entrer dans le pays promis. C'est son successeur, Josué, qui prit la relève de Moïse à la tête du peuple et qui lui fit traverser à ce moment-là le Jourdain pour entrer, enfin, dans la terre promise. Voilà en grand résumé, hein. Mais après tant d'années d'errance et de difficultés, le peuple juif entrait enfin dans cette terre qui leur avait été donnée déjà par avance et annoncée par Dieu. Or, et là je me vais déjà beaucoup plus loin dans le futur qui est pour nous passer, depuis cet événement fondateur, depuis ce passage du Jourdain pour entrer pleinement en Canaan, s'il est, bien un lieu pour le peuple juif qui symbolise ou doit symboliser un nouveau départ, c'est bien la vallée du Jourdain. Notez d'ailleurs que dans un contexte similaire, celui de l'exil à Babylone plus tard, le prophète Ésaïe déclara à ce moment-là, ou en vue de cela, de la part de Dieu, ceci. On entend une voix qui crie dans le désert. Dégager un chemin pour l'Éternel, niveler dans la steppe une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, toute montagne rabaissée, ainsi que toutes les collines. Les lieux accidentés se changeront en plaine, les rochers escarpés deviendront des vallées. Alors la gloire de l'Éternel sera manifestée et tous les hommes la verront à la fois. L'Éternel l'a promis. Et un petit peu plus loin, au verset 9, « Ô Sion, messagère d'une bonne nouvelle, gravis une haute montagne, crie avec force, Ré Jérusalem, messagère d'une bonne nouvelle. Oui, crie sans crainte, annonce aux villes de Juda, voici notre Dieu, vient. » Tout cela se trouve en Ésaïe 40, versets 3 à 5 surtout, et le verset 9 que vous venez d'entendre à la fin. Une bonne partie de ce passage d'Ésaïe, nous venons de l'entendre juste avant. Dans l'évangile de Luc, il est cité lui-même. Effectivement, c'est ce même texte-là que nous avons lu tout à l'heure. Et il n'y a pas de hasard à cela. Jean-Baptiste, qui est évoqué dans ce bout de l'évangile que nous avons lu, vient accomplir ces paroles du prophète Ésaïe. Oui, Jean-Baptiste avait comme ministère de préparer un chemin dans le désert, un chemin qui allait servir à deux choses. Ça, vous le savez peut-être, mais essayons d'approfondir ou de revenir sur ce que cela signifie vraiment. Cela signifie, comme je vous l'ai dit, deux choses a priori. D'une, cela signifie au peuple d'Israël qu'il pouvait enfin finaliser son exode. Car il y avait encore un exode spirituellement qui durait et depuis longtemps. Et de pouvoir enfin, entre guillemets, retourner pleinement dans leur pays, dans cette terre promise, mais plus tout à fait peut-être au sens premier. Et d'autre part, et surtout, peut-être là je vais vous surprendre, je l'espère pas, cela devait servir aussi à Dieu, lui-même, pour lui permettre de revenir à habiter dans le pays. Ainsi, par le ministère de Jean-Baptiste, dans le désert du Jourdain, Dieu lui-même préparait son retour. Revenons toujours, ou restons surtout avec Jean-Baptiste. Dans le verset 3 que nous avons lu tout à l'heure, il est dit qu'il prêchait le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Voilà un peu ce que disait et faisait Jean-Baptiste pour le résumer, hein, très très simplement. Et on sait que Jean plongeait des gens dans l'eau en annonçant simplement leur repentance. Et il les plongeait dans la vallée, dans les eaux du Jourdain. Il avait choisi de le faire là-bas, il ne l'a pas fait dans sa région natale. Et je pense qu'il y avait d'autres points d'eau en Judée ou en Israël pour le faire. Mais il a choisi de le faire là-bas. Et ce n'était pas pour rien. Pourquoi a-t-il, Jean-Baptiste, choisi de vivre son ministère et de le faire principalement, si ce n'est peut-être uniquement, dans cette vallée du Jourdain? Tout simplement pour remettre en scène de façon symbolique ce qui s'était passé lors du premier exode. Lors de la traversée du Jourdain par le peuple d'Israël pour entrer en terre promise en Canaan, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure. Jean fait revivre cela de manière symbolique. Il drie un message aussi en le faisant à cet endroit-là, parce que cela doit faire sens. C'est un baptême de repentance qui resitue ce qui doit se vivre pour ce peuple. Le baptême de Jean, donc, est bien sûr un baptême de repentance, mais un baptême qui lie cela aussi à l'Exode, au sens même de l'Exode. C'était un acte qui mettait en scène le salut, la délivrance, la liberté. Plus encore, un nouveau départ pour tout ce peuple qui devait entendre qu'il devait lui aussi repasser par cette promesse. Et donc, de revivre, pourquoi pas, parce que le geste est fort, le sens est fort et l'image est forte, pourquoi pas de repasser aussi par les eaux du Jourdain avant d'entrer dans le salut de Dieu. Autrement dit, Jean, en faisant cela et en le faisant dans la vallée du Jourdain, annonçait donc un renouveau pour ce peuple qui était au plus bas. Il annonçait l'espérance d'un nouveau départ imminent. La machine est lancée, ça va redémarrer. À peu près ça qu'il essaie de leur faire entendre aussi. Et ce message va recevoir d'ailleurs un fort succès. Beaucoup de gens accouraient, écoutez. Ils venaient beaucoup aussi pour se faire baptiser. Oui, les gens affluèrent parce qu'ils attendaient quelque chose qui devait changer, que les gens ne pouvaient pas rester en l'état. Ils étaient là et ils avaient soif. Et Jean a été justement poussé par Dieu pour être là, dans ce moment-là, dans cette vallée-là. Et tout en écoutant Jean, ce peuple, du moins ceux qui accouraient vers Jean, étaient déjà prêts à se laisser interpeller par ce message. Ils avaient soif de cela, ils attendaient quelque chose. Ils n'avaient peut-être pas une idée précise de ce qu'ils attendaient, mais ils sont venus et ils se sont laissés interpeller. Tellement interpellés que ils étaient prêts à dire « Et si le changement auquel nous aspirons tant, auquel j'aspire moi, et si le changement cela commençait par moi ?» Voilà pourquoi ils venaient jusqu'à Jean-Baptiste pour lui demander d'être baptisé dans les eaux du Jourdain et de signifier leur désir de repentance, leur désir d'entrer dans le salut que Dieu allait leur offrir. Car oui, l'espérance de délivrance qu'annonçait Jean-Baptiste devait passer par un baptême de repentance, un baptême à travers lequel le peuple disait « Nous nous sommes trompés de chemin, nous n'en avons fait qu'à notre tête. Nous avons cru que nous pouvions conduire nos vies comme bon nous semblait sans Dieu, et cela nous a conduit à notre perte. » Et c'est toute cette histoire qui précède, pas seulement la leur, mais celle de leurs ancêtres qui se dit là. Oui, mais aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui, nous décidons de changer radicalement d'orientation de vie. Voilà très certainement ce qui se vivait dans le cœur de beaucoup de ceux qui étaient venus, d'une, l'écouter, mais très certainement, surtout, venir demander aussi à être baptisé par Jean dans le Jourdain. Et d'ailleurs, rappelez-vous aussi une autre parole qu'on trouve plus tôt dans l'évangile de Luc. Cette parole que Zacharie, le père même de Jean-Baptiste, a eu prophétisé, alors que on peut dire que Jean-Baptiste n'était pas encore vraiment là, bien trop petit. Voyez, entendez cette parole. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer ses voies. » Son père, qui au début était un petit peu réticent ou incrédule, après a su comprendre, a su recevoir et entendre l'Éternel dans ce qu'il voulait lui dire et a su annoncer ce qui allait arriver. Jean-Baptiste était donc, permettez-moi de le dire ainsi, un nouveau Moïse, un type de Moïse. Oui, Jean-Baptiste a eu conscience qu'il devait justement rappeler quelque chose de l'ordre de ce que Moïse a été pour son peuple. Et c'est pour ça qu'il devait le faire au Jourdain. Et s'il devait être tel un nouveau Moïse, c'est parce que lui précédait un nouveau Josué. Et c'est ça le plus important. Et c'est cela qu'il avait compris aussi. Car oui, si Jean-Baptiste devait aller au Jourdain, c'était pour annoncer un nouveau Josué. Parce que entre Josué, ce sont des noms francisés, hein, et Jésus, si je ne dis pas de bêtises, et Philippe me corrigera au besoin, c'est un seul et même prénom en fait, Yeshua. Et c'est effectivement Jean-Baptiste qui vient annoncer la venue d'un nouveau Josué, celui qui va justement faire de nouveau passer le peuple de l'errance au repos, de la mort à la vie, du désert en terre promise. Ainsi, le salut du peuple en la personne de ce nouveau Josué, qui allait bientôt se faire découvrir, d'ailleurs il sera dans le Jourdain. Il y mettra les pieds et c'est à partir de là qu'effectivement son ministère va démarrer. En la personne de Josué, c'est-à-dire Jésus, arrive alors tout cela. Et Jean était là pour préparer le terrain, pour rendre, comme il est dit, si je reprends les mots d'Ésaïe, pour rendre droit les sentiers de Dieu, pour combler les vallées, pour abaisser les collines. Tout ce qu'il prêchait préparait le peuple à recevoir le salut de Dieu en Jésus-Christ. Oui, tel était son ministère, dans ce lieu ô combien important et symbolique, cette vallée, ce Jourdain. Mais alors, là nous regardons à l'histoire, nous regardons à ce qui s'est passé à cette période-là, à ce que Dieu a accompli en réponse aux promesses qu'il avait faites et qui s'étaient fait entendre déjà dès Ésaïe. Mais pour nous aujourd'hui, or, comme je l'ai dit, tel était son ministère il y a 2000 ans à peu près, à ce cher Jean-Baptiste. Telle est la façon dont il a préparé le peuple à la venue du Messie, à la venue de Jésus, ce nouveau, entre guillemets, Josué. Nous pourrions sûrement nous arrêter là, satisfaits d'avoir bien compris ce qui s'est joué à cette époque, d'avoir saisi même le sens du baptême de Jean-Baptiste à son époque. Mais on peut aussi se demander légitimement aujourd'hui en quoi cette parole est-elle à même de nous interpeller aujourd'hui, maintenant, moi, dans ma vie. Et une première interpellation serait de demander, mais comment Jésus veut-il que je me prépare pour l'accueillir? Ou dit autrement, et en réemployant un peu le vocabulaire que Ésaïe a déjà formulé autrefois, quelle vallée dans ma vie désire-t-il voir remplie? Quelle montagne dans ma vie veut-il voir abaissée? Quel chemin tortueux, le mot est bien là, hein, doit être rendu droit? Car toutes ces images topographiques ne sont là que pour regarder à ce qui se passe au plus profond de nous. Oui, pour que Dieu vienne pleinement habiter en moi, pour que je puisse de nouveau ressentir la plénitude de sa présence dans ma vie, pour que je retrouve l'espoir, qu'est-ce qui peut encore changer dans ma vie? C'était là le message que Jean-Baptiste a adressé autrefois à ce peuple, et c'est là encore le message qui s'adresse à nous ce matin, dans la prédication que Jean-Baptiste a eu formulée déjà autrefois. Nous savons tous qu'il y a dans nos vies des habitudes, des actes, des pensées, même des paroles, qui nous tiennent encore, peut-être ce matin, d'une certaine manière, éloignés de Dieu. Et ces habitudes, ces paroles, ces pensées, ces actes, tout ce que nous avons pu formuler, sont comme des routes sinueuses, tortueuses, et pourquoi même pas remplies de nids de poules. Ce sont des chemins tellement tortueux que Dieu y progresse, oui, mais au ralenti, parce que nous ne voulons pas lui faciliter les choses. Alors bien sûr, à chacun, il revient la responsabilité d'identifier tous ces côtés tortueux de ce que nous sommes, et aussi, pourquoi pas, ces nids de poules, ces fossés que nous laissons devant Dieu pour le freiner dans ce qu'il veut lui transformer en nous, pour se faire plus présent en nous. Car si notre récit nous exhorte bien à quelque chose d'abord, c'est bien évidemment à la repentance, bien sûr. Mais aujourd'hui encore, je peux dire stop à tout ce qui me retient loin de Dieu. Je peux dire stop aussi à ces habitudes, à ces paroles, à ces pensées que je peux encore avoir et continuer de formuler en raison de mes mauvais traits chez moi et qui font que Dieu, voilà, ne peut que parfois avancer au ralenti dans ma propre vie. Mais attention, le plus beau dans tout cela, si bien sûr notre repentance est véritable, c'est-à-dire qu'elle s'attend véritablement à Dieu, alors ces nids de poules, ces trous, ces voies tortueuses, même ces fossés dans ma vie, Dieu va lui-même les boucher et les combler. Car il n'y a pas mieux que Dieu pour être le meilleur des ouvriers de la DDE dans nos vies, si on peut le dire aussi ainsi. Car la promesse de l'Évangile, ce que Jésus a accompli à la croix, c'est bien cela. Dieu peut quelque part abaisser ses collines, remplir ses vallées qui pour moi aujourd'hui sont encore des choses bien trop chaotiques au plus profond de mon cœur. Dieu peut toujours pardonner dans ce sens qu'il nous redonne la joie pleine et entière de sa présence et de son salut. Cela est vraiment possible pour chacun de nous, même pour celui ou celle qui aujourd'hui encore peut-être se bat contre de mauvaises habitudes. Et malheureusement, il est fort possible que nous ayons encore quelque part chacun, ou presque, de mauvaises habitudes. Même pour celui ou celle qui est au plus bas dans sa vie de foi, aujourd'hui, Dieu veut agir, Dieu veut le libérer, Dieu veut le guérir. Et repromener tout ce langage d'Ésaïe, c'est cela qu'il dit, Ésaïe. Car Dieu veut ici, bien sûr, aussi lui faire goûter plus encore à cette vie de salut, aujourd'hui. Mais nous pouvons encore entendre une seconde interpellation. La première est bien sûr le message le plus clair, le plus direct que nous fait entendre cette parole dans l'évangile de Luc à propos de ce que Jean-Baptiste a été. Mais une seconde interpellation existe, et permettez-moi de vous la dire. C'est un frère qui me l'a fait connaître et je la trouve pertinente. Je la formule sous deux interrogations, très semblables. Est-ce que ma vie prépare vraiment le retour de Dieu pour, non pas seulement moi, mais pour les autres ? Quel chemin sommes-nous pour nos amis, pour nos familles, pour nos collègues, pour nos voisins, pour tous les habitants de cette ville et de ses environs? Cette haute interpellation n'est pas juste de recevoir et de réentendre cette exhortation, ce message de Jean-Baptiste, mais de nous dire aussi, n'avons-nous pas quelque part une interpellation qui nous pousse à être un peu à l'image de Jean-Baptiste? De jouer quelque part un rôle tel que Jean-Baptiste l'a eu aussi pour le peuple d'Israël. Nous aussi, ne sommes-nous pas appelés à devenir comme des Jean-Baptiste, des voix qui crient dans le désert pour annoncer le Christ, le Sauveur? Disons-le avec honnêteté, nos propres chemins, comme on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas forcément les plus droits. Le témoignage parfois de notre vie que nous montrons aux gens, à mes voisins, de paliers, de quartiers, au sein de ma famille, etc., etc., n'est pas toujours très clair, pas très lisible. Nous avons besoin de remettre au centre de notre vie cette vocation, si belle et importante qu'est vivre l'Évangile. J'aime à le dire ainsi plutôt que d'utiliser le mot évangélisation, même si je parle de cela aussi. Je préfère dire vivre l'Évangile. Car parfois on pense vie, évangélisation, et puis on va la mettre dans un truc bien précis. L'évangélisation, c'est très large. Ça doit être toute notre vie. L'annonce, non pas seulement par nos paroles et nos traités, mais aussi par nos actes, par nos vies tout entières, que Jésus-Christ est celui dont le monde a besoin, parce qu'il se trouve être pleinement présent, déjà aujourd'hui, au centre de ma vie. C'est un peu ça, essayer d'être comme un Jean-Baptiste, aujourd'hui. Alors, il n'y a pas besoin de rechercher un Jourdain, mais nous pouvons rayonner aussi de cela. Frères et sœurs, et je vais finir sur cela, mais cette question du chemin que nous préparons pour Jésus-Christ, nous avons une petite vocation à ce niveau-là. Alors, elle ne nécessitera pas d'être habillée en peau de bête et d'aller manger des criquets. Pas obligatoirement. Après, si certains ont vraiment reçu une mention claire là-dessus, alors prenez bien le temps de discerner, parce que franchement, je ne suis pas sûr que ça aidera beaucoup dans ce contexte-ci. Mais, je reviens sur ce que je dis, cette question du chemin que nous préparons pour Jésus-Christ, entendez-le bien, ça n'est pas juste une option. Ça n'est pas l'affaire de un ou deux parmi nous, parce qu'ils auraient reçu un appel ou un don précis pour cela. Je pense à nos quelques rares frères et sœurs qui essayent d'aller aussi au-delà de ces murs pour témoigner. Bien sûr, le témoignage ne se fait pas que sur une place précise dans la ville, elle se fait autour de nous, là où Dieu nous place, comme je l'ai déjà dit. Oui, c'est bel et bien la vocation du peuple de Dieu. Oui, parce que nous qui avons tant reçu de Jésus, nous sommes appelés à le faire connaître autour de nous. Et c'est aussi en cela que l'attitude de Jean-Baptiste doit nous interpeller encore ce matin. Est-ce que mon chemin à moi, ce que je transpire de l'Évangile, peut-il conduire aussi vers Christ? Est-ce que mes collines et tout ce qui est fait de moi cette personne-là, ce disciple du Seigneur, permet aux autres d'y voir une belle avenue qui permet de conduire vers Christ? Alors, belle avenue, bon, il y a peut-être encore quelques petits légers travaux, espérons-le. Est-ce que ma vie est témoignage de Jésus-Christ au quotidien? Moi, avec mes enfants, c'est parfois un peu difficile, tellement ils me mènent la vie dure. Et il m'est difficile, je vous le dis là, et je l'assume. Malheureusement, je n'arrive pas encore pleinement à être constamment un témoignage de Jésus devant mes enfants. Tellement, parfois, ils sont difficiles. Il me porte sur les nerfs et j'ai du mal. Mais j'ai besoin que plus encore, le Seigneur Jésus soit plus encore au profond de ma vie. Pour que même là, même quand c'est difficile, notamment avec les miens, je sois ce témoin qui glorifie Jésus, qui soit édifiant pour ceux que Dieu me confie, ceux devant qui Dieu me place, ceux qui sont juste ses voisins parce que Dieu a voulu que je vive à tel numéro, dans cette rue, dans cet immeuble, etc., etc. Alors, je conclus. Bien évidemment, cette double interpellation autour de ce message de Jean-Baptiste, ces deux-là sont fortement liés. On ne peut pas les séparer. Plus nous nous recentrerons sur Dieu, plus nous redirigerons vers nos vies vers lui, et plus notre vie sera témoignage véritable de l'action de Dieu pour le salut du monde. Je vous spoil pas la fin. Bien évidemment, dans cette vie aujourd'hui, nos vies ne seront jamais ultimement parfaites. Mais en recevant le pardon, en laissant Dieu agir dans nos vies, alors c'est vers Dieu que nos vies pointeront. Vers un Dieu qui œuvre et qui transforme. Un Dieu qui sait combler nos lacunes et nos faiblesses. Un Dieu qui, quand bien même nous sommes peut-être aujourd'hui au plus bas, tend la main et se laisse saisir et sauve. Oui, c'est ce Dieu-là que ce texte nous invite à rechercher, d'une part, et à faire connaître, d'autre part. Prenons le temps de nous incliner et de prier.